séance vous a plu? C'est l'heure de la chronique ciné.
Puisque Raph, tu vas nous parler de
Demolition Man.
Ouh, beau gosse.
Oui, parce que je me suis dit, c'est peut-être pas de l'horreur, mais c'est de la SF, donc on n'est pas très loin, ça va.
Et puis c'est bientôt en plus, 2032.
Oui, ouais. Tout à fait.
Et d'ailleurs, il a été congelé en quelle année?
En 97, je crois, en 96.
Non, en 96.
Bah, j'ai dit 96.
Comment?
J'ai dit 97, 96.
Ah oui, tout à fait.
J'ai dit les deux.
Bref.
Alors que le film était réalisé en?
En 92, non?
Presque, 93.
Ah, bah, putain.
Let's go. Let's go. Quand on pense producteur, on a souvent tendance à imaginer le type véreux derrière son bureau qui n'y connaît absolument rien au cinéma, attendant qu'un film dans lequel il a investi lui rapporte plus que ce qu'il n'aurait imaginé. Mais il arrive à Hollywood qu'un producteur soit un mec intelligent, amoureux de cinéma, et qui va travailler avec un réalisateur talentueux et qui en plus de ça sait utiliser correctement le pognon qu'il allouera à un film.
Donc par Harvey Weinstein.
Exactement, par Harvey Weinstein. Non. Amenant du coup généralement à de très grandes réussites qui étaient pour moi un éventail entier à ma culture de films d'action des années 80 et 90. Et ce mec là c'est Joel Silver. Pour faire court, Joel Silver c'est pas n'importe qui. C'est la quadrologie L'Arme Fatale. C'est Die Hard 1 et 2, c'est Predator 1 et 2, c'est Commando, Assassin, Le Dernier Samaritain, Les Guerriers de la Nuit, 48 heures. C'est Les Rues de Feu. Donc
Ashton Jackson.
Ouais, Ashton Jackson. Et bien évidemment, la trilogie Matrix.
Toute notre enfance.
Ouais.
Et aussi quelques remakes de films d'horreur qu'on aurait préféré pas voir. Genre La Maison de l'Horreur.
Oui. Mais c'est avec une vieille VHS enregistrée que m'avait montré mon frère il y a de ça déjà une vingtaine d'années, ça me rajeunit pas tout ça, que naquit alors mon amour inconditionnel, incommensurable et que aujourd'hui toujours intact, pour Silver Star Stallone. Une pure merveille de science-fiction et d'action sortie en 93, ce film, c'est Demolition Man. Film culte par excellence et qui offre selon moi le meilleur rôle absolu à Stallone, avec les éternels Rocky et Rambo, bien sûr. Demolition Man est la seule et unique réalisation en long métrage de Marco Brambilla, un mec spécialisé dans la publicité qu'un certain David Fincher recommandera à Joel Silver, Brambilla n'étant alors âgé que de 32 ans à l'époque. Après le film, il poursuivra une carrière artistique plus diverse, avec de la photo, de la vidéo, et ne reviendra à la réalisation de fiction qu'en 2006, avec District, un film choral sur le sexe et l'art, regroupant plein de courts-métrages, et avec comme autre nom, par exemple, Gaspard Noé, ou même encore Larry Clark. Demolition Man commence alors en 1996, dans un Los Angeles rongé par une criminalité élevée et une police aux méthodes extrêmes. On y suit le sergent John Spartan, faisant une descente dans un immeuble occupé par des criminels avec à leur tête le dangereux psychopathe Simon Phoenix, campé par Wesley Snipes, ayant par ailleurs pris en otage une trentaine de passagers d'un bus. Phoenix est arrêté, mais l'immeuble explose avec ses 30 civils à l'intérieur. Et Spartan est également condamné pour homicide involontaire. Les deux hommes se verront purger une peine de cryogénisation, période durant laquelle leur cerveau et leur comportement seront remaniés en tant que programme de réinsertion pour le jour où ils s'en sortiront. 36 ans plus tard, en 2032, Los Angeles, San Diego et Santa Barbara ont fusionné pour donner la méga métropole de San Angeles. Une ville extrêmement propre, dénuée de violence et de crimes, et où l'hygiène de vie est absolument irréprochable. Sont donc interdits le tabac, l'alcool, la viande, le sexe et même le langage grossier. Mais où par contre les relations sexuelles ne sont plus physiques mais mentales et que l'on fait ses besoins avec trois coquillages.
C'est pas servi les trois coquillages.
Et je peux vous dire que je me suis acheté des coquillages exprès juste pour en foutre trois dans mes chiottes à moi.
Excellent.
Le fanboy de première, c'est moi.
Putain.
Le bruit de l'alarme avec l'amende serait génial. Là.
Le code de moralité du langage, ouais, magnifique.
Infraction au code de moralité du langage.
Ned Flanders.
Ned Flanders.
C'est la voix française de Ned Flanders.
Ah bon?
Bordel.
Trop galerie.
C'est dans ce monde que Simon Phoenix va être libéré prématurément et réussir à s'évader tout en semant le chaos sur son passage. Son programme de réinsertion l'a transformé en maître des arts martiaux, de hacking, de maniement d'explosifs et autres armes, le rendant impossible à neutraliser par les forces de l'ordre établies, plus habituées à des tags sur les murs et rien de plus grave que ça, plutôt que tout ce déferlement de violence auquel ils font face. Simon Phoenix étant un criminel comme on n'en voit plus, il faut un flic comme on n'en voit plus. Et John Spartan est alors libéré. Et tel un homme de Néandertal, il doit faire face au nouveau monde dans lequel il doit évoluer et être considéré aux yeux de tous comme primitif. C'est donc deux hommes qui vont se foutre sur la gueule en répandant le chaos dans ce monde aseptisé. En y regardant de plus près, on peut constater que le film est relativement visionnaire et que bon nombre de choses dépeintes dans le film sont réellement arrivées de nos jours. L'utilisation de voitures électriques et autonomes, les visioconférences, les divertissements courte durée qui rappellent étrangement TikTok ou les shorts YouTube, l'omniprésence d'écrans connectés ainsi que sa dépendance, la guerre des franchises, la guerre des franchises des années 80 en l'occurrence, la carrière politique de Schwarzenegger,
c'est vrai.
Il n'a pas été président mais il a quand même eu une carrière, ou encore la réprimande de langage grossier, la mesure de propos ainsi que la distanciation sociale. En un sens, Demolition Man est une satire du politiquement correct et de la bienséance forcée au détriment du bon sens, et qu'à force de vouloir toujours plus interdire ou éviter de heurter la vie générale, à toujours vouloir réguler ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on mange, ce que l'on pense, on en vient à un contrôle total donnant naissance à un totalitarisme déguisé, entraînant des individus faibles, superficiels, naïfs, paranoïaques, dénués de spontanéité et de réflexion.
Spontanéité.
C'est dur à dire.
Oui.
C'est ton karaté encore.
La ville de San Angeles est en apparence une utopie. La ville est saine, il n'y a plus de violence et les habitants semblent heureux. Le personnage du docteur Cocteau est à la tête de ce nouveau système, un innovateur dont la technologie a permis le confort des habitants ainsi qu'à sa sécurité, puisqu'il est lui-même le créateur de la cryoprison, mais également à son contrôle étant donné que chacun dispose d'une puce de traçage incorporée dans la main. La population est donc dépendante de la technologie, ne se fiant uniquement qu'à elle quand il s'agit de prendre des décisions, de procréer ou même de faire du développement personnel, le tout au détriment, encore une fois, du bon sens. Les rapports humains ne sont plus physiques, la vulgarité est sanctionnée par un code de moralité du langage afin d'éviter des propos offensants. Tout cela pour que Cocteau puisse conserver son statut par la manipulation et le contrôle du corps et de l'esprit de la population, sans même que cela ne puisse être remis en question. Et donc San Angeles n'est au final qu'une anti-utopie. La population sous contrôle vit une vie de bohème à la surface, à l'inverse d'opposants au système, vivant dans les égouts et les profondeurs de la ville, dans des conditions insalubres, à crever de faim, ou du moins à manger tout ce qui leur passe par la main, comme par exemple du rat, tout en espérant une certaine liberté. Parmi eux, le meneur Edgar Friendly prône à l'inverse de Cocteau la liberté individuelle, l'anarchie et le refus de se plier aux règles, devenant alors pour Cocteau une cible à abattre. Simon Phoenix était donc programmé pour tuer Friendly afin que Cocteau ait un contrôle total. Mais Phoenix représente le chaos le plus absolu et réussira à s'émanciper de Cocteau en contournant les règles de contrôle imposées et sans connaître de barrière morale, à l'inverse d'Edgar Friendly. Au milieu de tout ce bordel, le personnage de Lenina Huxley, interprété par Sandra Bullock, représente la juste position entre les deux mondes. J'ai une troisième page, c'est inédit. Elle est elle-même flic de San Angeles.
C'est mérité.
C'est une jeune adulte passionnée par le XXe siècle, sa culture et surtout sa violence. Elle a une fascination pour le travail de John Spartan et sera à l'origine de sa libération, puis d'être son guide dans le nouveau monde. Elle qui a toujours connu ce monde avec ses règles, elle est désireuse de sensations plus fortes lorsqu'il s'agit de combattre ceux qui violent la loi, ceux qui changent un peu des tags. Entre la sécurité et le contrôle, et la liberté mais le chaos, Spartan et Huxley vont concilier les deux visions utopiques et faire comprendre aux habitants qu'il faut garder le meilleur des deux pour au final créer le meilleur des mondes. Demolition Man connaît un petit succès assez sympathique et deviendra monstrueusement culte avec le temps. Il arrive à une période où la carrière de Sylvester Stallone chutait drastiquement. Depuis à peu près 1988 et le troisième volet Rambo, il ne connaît que des échecs au box-office, dont un remake horrible que j'ai toujours pas vu, mais un jour j'y arriverai, de Oscar de Louis de Funès, ça s'appelle L'embrouillé dans le sac.
Ah oui, c'est vrai.
Et c'est avec Cliffhanger.
Ouais, toi, tu l'as vu? Oh mon dieu, j'ai vu Arrête où ma mère va tirer, je suis sûr que c'est vachement mieux.
Oui. C'est rien, ça aussi, oui. J'ai oublié. C'est lent.
Et c'est avec Cliffhanger de Renny Harlin et Demolition Man, tous deux sortis en 93, que Stallone va pouvoir se renouveler en cinéma d'action et s'essayer pour une fois à la science-fiction. Il renouvellera 2 ans plus tard l'expérience SF avec Judge Dredd, sorti en 95, et qui sera un échec critique et public.
C'est dommage.
C'est de la merde.
Ouais, mais c'est dommage.
Ce sera le début...
C'est normal.
Oui. Ce sera le début de la longue traversée du désert pour l'acteur, avec cette très mauvaise adaptation du comics original, dans laquelle on dépeint un monde post-apocalyptique, totalitaire, rongé par une criminalité sans précédent et des forces de l'ordre particulièrement violentes et amorales. Ce qui, bizarrement, me rappelle un film. Vous l'aurez compris, je fais référence à la scène d'introduction de Demolition Man, où l'on voit un monde, déjà dans le futur, plongé dans le chaos avec un policier aux méthodes brutales. Pour moi, la scène d'intro de Demolition Man est un bien meilleur Judge Dredd que Judge Dredd. Et pour la petite anecdote, la réalisation de cette scène est confiée à un certain Fred Decker. Tristement célèbre pour avoir réalisé le très mauvais, mais ô combien sympathique pour moi, Robocop 3.
Et le merveilleux Monster Squad.
Ouais. Sandra Bullock, quant à elle, sera choisie pour un autre immense film d'action des années 90, un petit film qui s'appelle Speed.
Un truc qui roule.
Ouais. Dans lequel Keanu Reeves doit sauver la vie de plusieurs passagers d'un bus menacé d'explosion.
La classe.
La boucle est bouclée.
C'est vrai.
Demolition Man a changé ma vie, mon rapport au cinéma et ma vision du monde. C'est un peu les prémices de ce que je connaîtrai plus tard en découvrant Paul Verhoeven ou John Carpenter. Il est parmi les films d'action les plus impressionnants que j'ai pu voir. C'est drôle, c'est fun, ça se prend pas au sérieux, et pourtant ça aborde des thématiques sérieuses qui me sont personnelles. Stallone y est impressionnant, jouant le mec sérieux dans un monde à la limite du guignolesque, et Wesley Snipes est génial de folie, pouvant parfois évoquer un certain Joker. Je note cependant juste un petit point négatif pour la Warner Bros., qui n'est absolument pas foutu de faire une édition décente de ce film. Le DVD ne comporte rien et le Blu-ray ne dispose uniquement que du commentaire audio avec des sous-titres chinois.
Ah bon ?
Il n'y a pas de sous-titres ni français ni anglais et il n'y a aucun making-of.
C'est fou.
Contrairement à un certain Cobra qui était très mauvais, mais au moins il a un making-of, lui.
C'est fou. Parce qu'il y aurait des trucs à dire dessus, en plus.
Ah, mais il y a un truc. Il y a monstrueusement.
C'est incroyable, ce tournage. Hein.
Mais il y a eu monstrueusement à dire, quoi. Et moi, j'attends juste un putain de making-of de ce film.
Tu m'étonnes.
Les commentaires audio, c'est tout un sous-titre chinois. J'étais vraiment ravi de payer 15 balles pour le Steelbook, qui est franchement d'une médiocrité absolue.
Tu payes la HD, quoi, c'est tout.
Ouais, mais bon. Alors que des éditions de films de Nolan et de Kubrick, bah, il y en a genre un milliard, hein. Un milliard différentes. Donc voilà, c'était ma chronique sur Demolition Man. J'espère que ça vous a plu.
Que vous
avez redécouvert le film.
Ouais,
je vous souhaite une bonne continuation, tout le monde, et soyez heureux.